Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous par la radio ou par l'Internet. Vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de Pensée. Et nous démarrons donc un nouveau cycle d'émissions, puisqu'après avoir consacré 4 émissions à l'apologie de Socrate, donc ce texte de Platon, puis un certain nombre d'émissions au discours de la méthode par René Descartes, nous allons faire un chemin inverse et revenir en terre de la Grèce antique. Et pour nous aider à faire cette transition, nous allons donner la parole, comme de coutume, à Nicolas Lemoine, qui va nous faire un résumé des épisodes précédents. Alors, vous êtes avec Nazim Fattès, Sylvain Contasso-Vivier et notre invité du jour, Anne Bonneau. Voilà. Alors, Nicolas, peux-tu nous résumer un petit peu notre cheminement des dernières émissions ?
Lors de notre dernière émission consacrée au discours de la méthode de Descartes, nous avons tout d'abord longuement commenté ce que Descartes dit au sujet des machines et de leur incapacité à imiter un humain, sur le fait que l'âme raisonnable, supposée propre à l'homme, ne peut être tirée de la puissance de la matière. Nous avons commenté tout cela à la lumière de l'informatique moderne, fondée par Alan Turing. Ce dernier a conçu l'idée d'une machine universelle capable d'effectuer n'importe quelle tâche, pourvu qu'elle puisse être décomposée en opérations simples. L'ordinateur est la réalisation de cette idée. Nous avons cité la recherche en intelligence artificielle avec la question « qu'est-ce que penser ?» et à partir de quand pourrait-on dire qu'une machine serait capable de penser ? Et puis donc nous avions cité différentes réalisations donc de ce domaine de recherche avec des machines capables de traduire des textes d'une langue en une autre, capable d'apprendre par essai-erreur, de fournir à l'homme une maîtrise technique sans qu'une compréhension préalable du monde ou des phénomènes soit absolument nécessaire. On quitte peu à peu le terrain de la clarté pour se contenter du but ultime de la démarche de Descartes, à savoir se rendre comme maître et possesseur de la nature, ce qui de plus en plus ne passe plus nécessairement par une compréhension des principes, par la méthode que nous avons exposée en fin d'émission. Alors, dans le deuxième temps, donc, nous avons résumé en quelques mots la métaphysique de Descartes, qui repose sur la conviction que les lois de la nature sont constantes, immuables, et sur le fait que l'homme dispose de lumières naturelles permettant de les comprendre. La méthode expérimentale proposée par Descartes pour rechercher ces lois est toujours la nôtre aujourd'hui, proposer des explications cohérentes et trancher entre ces différentes explications par des expériences dont le résultat dépend de la vérité de l'une ou l'autre explication. Et enfin, nous avons conclu sur la postérité de la pensée de Descartes, y compris d'un point de vue social. Alors tout d'abord, la métaphysique cartésienne ferme la porte à toute explication magique des phénomènes, avec pour conséquence qu'en cas de malheur, on ne peut pas faire de procès en sorcellerie d'un quelconque bouc émissaire, mais qu'il convient d'en rechercher les causes naturelles, et grâce à la compréhension et à la maîtrise acquise, se protéger de ces malheurs. Et ensuite, si le pouvoir que donne cette maîtrise devrait être utilisé dans l'esprit de Descartes dans un but charitable, cette maîtrise est devenue un enjeu de pouvoir entre les hommes, un moyen d'asservissement de l'homme, et entraîne également un mouvement furieux qui n'est manifestement pas maîtrisé. Le problème étant social et non technique, et Descartes n'ayant pas développé ses idées à ce sujet, nous avons décidé de revenir à des philosophes qui se sont beaucoup posé la question de la vie de la cité, à savoir les philosophes grecs, et voilà pourquoi nous abordons aujourd'hui le Gorgias de Platon.
Merci Nicolas. Alors juste, je voudrais saisir un petit peu la balle au bon. Tu as parlé du but ultime de Descartes, qui est de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Là, je voudrais exprimer un différent. Descartes, son but ultime, c'est la connaissance de la vérité. Et un des fruits de la méthode qu'on peut retirer, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et puis, tu l'as très bien résumé, c'est un but avant tout qu'on pourrait dire être charitable. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va secourir l'être humain. Mais n'oublions pas que ce qui motive Descartes, c'est d'abord la connaissance de la vérité. Hein, d'accord ? Et donc, tu as bien expliqué notre situation. C'est qu'aujourd'hui, nous, les hommes du 21e siècle, vivons dans une certaine abondance de biens matériels, nous maîtrisons la technique. Alors évidemment, on peut toujours dire que cette abondance n'est pas correctement partagée entre les hommes, mais toujours est-il que nous sommes incomparablement 100 fois ou 1000 fois plus riches matériellement que n'ont pu l'être les hommes des temps passés. En revanche, nous voyons, et s'il faut s'en référer à l'actualité, l'élection récente aux États-Unis, que en ce qui concerne le débat politique, qu'en ce qui concerne l'éducation de chacun, nous sommes toujours très très en retard et nous n'avons peut-être pas beaucoup progressé depuis ce temps-là. Alors donc nous avons fait le choix de réfléchir à cette question du lien entre politique et philosophie. Et cette question, elle est pas uniquement bien sûr posée chez Platon, mais elle est posée de manière radicale chez Platon. Et après avoir examiné l'apologie de Socrate, nous décidons de nous intéresser à un autre dialogue qui est le Gorgias. Alors sans plus attendre, nous allons demander à Anne de lire, de nous mettre en condition, de nous amener à Athènes et d'écouter un extrait de ce dialogue entre Socrate et un de ses adversaires avec lequel il dialogue, il combat, en quelque sorte par l'esprit, qui est Gorgias lui-même, oui, qui donne le nom au dialogue.
Bien, je vais essayer, comme je peux, de te faire voir plus clairement ce que je veux dire. Il y a donc deux genres de choses, et je soutiens qu'il y a deux formes d'art. L'art qui s'occupe de l'âme, je l'appelle politique. Pour l'art qui s'occupe du corps, je ne suis pas à même, comme cela, de lui trouver un nom. Mais j'affirme que tout l'entretien du corps forme une seule réalité composée de deux parties, la gymnastique et la médecine. Or, dans le domaine de la politique, l'institution des lois correspond à la gymnastique et la justice à la médecine. Certes, les arts qui appartiennent à l'une et l'autre de ces réalités, la médecine et la gymnastique d'un côté, la justice et la législation d'un autre côté, ont quelque chose en commun, puisqu'ils portent sur le même objet. Mais malgré tout, ce sont deux genres d'art différents.
Merci. Alors, on va essayer de voir de quelle manière cet extrait peut nous faire comprendre le rapport entre philosophie et politique. Et on avait dit Socrate prétend au sein d'Athènes qu'il est le seul véritablement à faire de la vraie politique. Comment cet extrait que nous avons là sous les yeux, enfin du moins pour nous, pour les auditeurs peut-être pas, mais on va y revenir plus tard, comment cet extrait peut-il nous éclairer sur la vision platonicienne de la politique? Voilà la question que nous nous proposons de traiter. Alors, simplement un petit repère pour les personnes qui souhaiteraient relire cet extrait. Par rapport à la classification estienne, donc on avait expliqué que c'était une classification qui venait d'une pagination originelle des humanistes, de la famille estienne, elle représente le 464B. Et la traduction qui vient d'être lue par Anne est la traduction que l'on trouve dans l'édition Garnier-Flammarion, faite par Monique Cantos-Perber. Alors cette traduction pose un certain nombre de questions, de problèmes, et on va y revenir un peu plus tard dans la discussion. Simplement, il va falloir qu'on distingue deux traductions, puisqu'elles ne disent pas exactement les mêmes choses. Alors pourquoi, déjà je vais vous demander peut-être de dire chacun ce que vous ressentez à la lecture de cet extrait. Est-ce qu'il y a matière à surprise ?
Oui, donc pour moi, il y a matière à surprise, puisque Socrate dit que c'est la politique qui s'occupe du soin de l'âme. Donc oui. Déjà, pour moi, c'était une première surprise. Voilà. Et donc ensuite, il dit qu'il y a deux arts dans la politique. D'une part, la justice. Donc là, on comprend bien que la justice soit associée à l'âme. Mais d'autre part aussi, l'institution des lois. Et donc cette notion d'institution des lois qui va avec le soin de l'âme, ça peut surprendre quelqu'un du 21e siècle.
Alors, le mot « âme » qui est utilisé, on rappelle qu'en grec, c'est « psyché », donc qui donne psychologie et psychanalyse, etc. Mais ce qui nous surprend, peut-être ce que tu disais, Anne, c'est qu'il y a une surprise parce que « âme », nous l'entendons, nous, toujours, dans, déjà dans un premier temps, d'un côté individuel. Oui. Et là, Socrate nous dit non, ce qui prend soin de l'âme, c'est la politique, donc quelque chose d'éminemment collectif. Alors comment vous comprenez ce mouvement de l'individuel au collectif ou vice-versa? Quel rapport peut-il... Parce que quand même, chez les Grecs aussi, il y a quelque chose d'individuel hein, dans l'âme. Il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose... Mais Socrate dit non, ce qui prend soin de l'âme, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'établissement d'une cité, d'une cité juste.
Oui, effectivement, pour rebondir sur ce point, il faut voir que effectivement chez Platon, ce qui est très fort, c'est le lien entre la vie personnelle et la vie dans la cité, dans la communauté. Et en fait, c'est justement, il explique tout à fait ce lien très fort, direct même, dans La République. Hein, le livre La République explique exactement ce parallèle entre la vie dans la cité et la vie personnelle, en fait. Et pour lui, il fait pas une distinction forte, en fait, entre les deux choses. C'est pour ça qu'il y a un lien direct entre voilà.
Et ça, on peut dire que c'est une première différence majeure avec ce qu'on avait vu chez Descartes, notamment. C'est Descartes, donc on avait dit, hein, c'est « je pense, donc je suis », donc on voit l'importance du jeu déjà, du cogito cartésien, du mouvement qui va fonder une métaphysique sur ma pensée à moi. Et finalement, là, on a l'impression que c'est pas ça qui va être l'objet de la philosophie qui est développé par Platon.
Oui, mais là, par contre, on pourrait quand même faire une distinction, parce que Descartes, pour le coup, n'était pas tout à fait dans le même contexte. Il ne parlait pas de la vie ensemble, ou même pas directement de la façon de vivre. Il s'intéressait, quand il a parlé du « je pense, donc je suis », hein, le jeu en question, c'était plus là sur une recherche de vérité absolue, un point de départ. Ce n'est pas tout à fait le même contexte. Du coup, je ne suis pas sûr qu'on doit forcément les opposer.
Alors, un autre point qui nous paraît être intéressant à lire ici, c'est la méthode. Donc, on parle souvent de dialectique. Donc, dialectique, ce qu'il faut entendre par dialectique, le dia, donc il y a le dia et le logos dans le mot dialectique. Et le dia, c'est quelque chose qu'on entend dans diamètre. Donc, c'est mesuré par la parole. Le diamètre, c'est ce qui mesure le cercle de part en part. C'est ce qui traverse le cercle. Donc. Et ici, on voit qu'il y a une dichotomie, une deux fois dichotomie. Hein. Alors, qui veut se charger de réexpliquer en quoi elle consiste? Parce que Socrate nous divise la chose. Et alors, il y a deux choses. Il y a la dichotomie, donc le fait de diviser, et il y a l'analogie. Alors, peut-être ça vaut le coup d'y revenir. Peut-être, Nicolas, tu veux expliquer dans ce passage quelles sont les analogies et les dichotomies proposées par Socrate?
Eh bien, il distingue d'abord âme et corps, avec donc les arts qui se prennent soin du corps et les arts qui prennent soin de l'âme. Donc, chez les Grecs, il y a une distinction nette entre les deux. Et au sein de chacun de ces deux formes, de ces deux groupes d'arts, donc il distingue les arts qui se rapportent au curatif, donc la médecine pour le corps et la justice pour l'âme, et puis les arts qui se rapportent plus au préventif ou à l'entretien courant, la gymnastique pour le corps et l'établissement des lois pour l'âme.
Donc, si je comprends bien, la gymnastique, elle empêche d'avoir des maladies, mais quand il y a des maladies, c'est le médecin qui les guérit. Mmh. Et l'équivalent politique, c'est quoi?
Eh bien, l'équivalent politique de la gymnastique, ce sont les lois. Mmh. Donc, ce serait l'analogie dans le domaine de l'âme. L'analogie de la gymnastique, c'est l'établissement des lois.
Oui. Donc les lois empêchent l'âme de s'égarer, d'avoir des mauvais comportements qui vont la détruire.
C'est ce qui semble apparaître à la lecture
D'accord.
du texte.
Oui.
Et donc, si des maladies de l'âme apparaissent, donc la justice intervient. Mmh. Et donc la justice est l'analogie de la médecine. La comparaison entre le juge et le médecin va être très forte chez Socrate, notamment dans ce dialogue du Gorgias.
D'accord. Alors tout ça, cette science, donc cet art, comme tu as dit, est opposé dans ce dialogue-là à la rhétorique, hein, c'est ça? Alors Sylvain, peut-être tu voudrais dire deux mots, nous resituer le contexte par rapport à ce dialogue. Pourquoi est-ce que ici Socrate va faire cette distinction qui est un peu tiré par les cheveux, dirons-nous, si on n'est pas familier avec la pensée socratique. On dit, mais à quoi ça sert finalement de dire qu'il y a le même rapport entre les lois et la justice qu'entre la gymnastique et la médecine? C'est utilisé pour illustrer quoi?
En fait, l'idée ici, c'est vraiment de faire la distinction entre une recherche de vérité absolue, une connaissance, et l'apparence de quelque chose, l'illusion. Et en fait, tout le dialogue justement de ce livre, Gorgias, est basé sur ça. En fait, au départ, c'est une discussion de Socrate avec Gorgias, qui est connu dans Athènes pour être un rhéteur, le plus grand rhéteur en fait. Donc, il est très connu. Alors, rhéteur, donc à l'époque, il enseignait en fait l'art oratoire notamment, et il se faisait rémunérer pour ça. Et toute la discussion qui va commencer, donc justement, entre Socrate et Gorgias, va porter sur c'est quoi la rhétorique, en fait. Il va lui demander, mais quel est ton art? Quel est l'objet de ton travail? Quel est l'objet de cet art, en fait?
Donc, selon lui, la rhétorique a quelque chose de néfaste. C'est quelque chose qui corrompt.
Alors, il
ne
le dit pas tout de suite, mais effectivement, on va voir au fil du dialogue qu'effectivement, on va s'apercevoir que pour Socrate, en tout cas, la rhétorique n'est pas un art du tout.
D'accord. Alors je vous propose, chers auditeurs, de faire une petite pause musicale, petite respiration musicale avec Couperin, et ensuite on discutera sur cette rhétorique et cette question de savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui opposer à cette maudite rhétorique.
La joie se partage.
Alors, nous écoutions Les barricades mystérieuses de Couperin, interprétées par Alan Cuxton au clavecin. Alors, Anne, tu voulais nous dire peut-être en quoi cette surprise que tu as ressentie de voir politique et âme, en quoi elle peut peut-être nous éclairer sur le message, sur ce que Socrate essaye de faire passer dans sa cité, et comme on l'a vu, au prix de sa vie, puisque à la fin, il sera y compris condamné à mort. Mais bon, on n'est pas là pour verser des larmes non plus.
Oui, donc ce qu'on a bien compris, c'est que ce qui est important pour Socrate, c'est le soin de l'âme. Et le soin de l'âme, c'est vraiment tout le but de la vie de l'homme. Il faut que l'homme ait une âme juste, et c'est du reste avec cette âme juste qu'il passera probablement un jour qu'il sera jugé. Donc, ça nous fait rebondir aussi sur le pouvoir. On voit que pour Socrate, prendre soin de son âme, c'est aussi prendre soin de la cité. Et donc, si on prend bien soin de son âme, on fait des choses qui sont justes pour la cité. Et c'est ce qu'il va reprocher de manière constante à tous les hommes politiques. Il va énormément s'attaquer dans le Gorgias aux hommes de pouvoir dans Athènes. Il va leur reprocher de pas bien prendre soin de la cité.
Mais au fond, qu'est-ce qu'on peut dire au rhéteur? La surprise, c'est de dire, le rhéteur, il dit, mais moi, je suis capable de faire gagner qui je veux face aux tribunes. Et donc, si je t'apprends à bien parler, eh bien, tu es capable de gagner face à... Donc, soit faire emporter dans une élection, soit l'emporter dans un tribunal face à celui qui t'a dit. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à celui qui se targue d'un tel art et qui fait payer très cher ses leçons? Et aussi, quand Socrate demandera à Gorgias de s'expliquer, Gorgias lui dira « Mais attends, mon pauvre ami, je dis pas qu'il faut s'en servir mal. Par exemple, si je t'apprends l'art du karaté, c'est pas pour autant que tu vas te mettre à mal t'en servir, c'est à toi à bien t'en servir. » Et donc toi, Anne, si tu étais face à un rhéteur qui disait ça, mais au fond, si, c'est un immense pouvoir que d'être capable de faire gagner le camp qu'on veut en parlant bien.
Oui, mais justement, c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est particulièrement dangereux. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que Gorgias va prendre deux exemples sur son pouvoir. Il va prendre un exemple qui est lié à la médecine et il va prendre un exemple qui est cher à Socrate, qui est la construction d'Athènes. Et Gorgias va dire, eh bien moi, si je vois un malade, je suis capable, mieux qu'un médecin, de lui faire prendre une potion. Donc on voit bien le danger, oui. Hein, c'est, puisque finalement le malade ne va pas correctement se soigner. Et il s'est vanté aussi auprès de Socrate que c'était des rhéteurs, des politiciens rhéteurs, qui avaient pris des décisions, fait prendre des décisions très importantes sur toute la politique de construction d'Athènes, sur les arsenaux, sur le port. Et là, à nouveau, on voit à quel point c'est dangereux, puisque ce que reproche bien Socrate, c'est que ce sont des hommes qui n'ont pas la connaissance qui font prendre des décisions.
Et donc, par rapport au médecin, ce que dit Gorgias, c'est que le médecin, il va prescrire des potions amères au malade. Oui. Le malade va dire non, moi je veux pas les prendre, mais lui, rhéteur, va agir dans le bien du malade en lui faisant prendre les choses. C'est bien ça.
C'est exactement ça.
En le convaincant. Oui. Donc finalement,
c'est très dangereux.
Mais pourquoi tu dis c'est très dangereux? Puisque, au contraire, là, le rhéteur fait avaler les mauvaises potions aux malades. Donc en fait, il est très utile.
Non, parce qu'il va pas forcément faire avaler les bonnes potions aux malades. Il fera ce qu'il veut du malade.
Bah, le problème, c'est quand le rhéteur n'est plus au service du médecin, mais à son propre service, et qu'il peut gagner face à un médecin véritable et convaincre des malades de suivre des remèdes qui n'en sont pas.
Donc alors raison de plus pour qu'on soit tous armés à faire de la rhétorique à ce moment. On devrait tous fuir l'enseignement de Socrate, parce que si on a un rhéteur en face de nous, il faut que nous-mêmes on soit rhéteur pour être capable d'être encore plus convaincant que lui, non ?
Oui, mais tu n'agiras pas pour le bien, tu n'agiras pas pour la justice, tu prendras pas soin de ton âme, donc voilà.
Le souci, c'est qu'on trouve toujours plus fort que soi, et quand le critère de vérité, c'est un critère de conviction, à partir du moment où les gens qui participent au débat et les gens qui ont leur avis à donner dans le débat ne rejettent pas la rhétorique, parce que tout le monde est complice dans cette histoire, évidemment. À la fois les rhéteurs qui veulent utiliser leur art pour emporter la conviction, mais aussi les gens qui se laissent convaincre et qui trouvent que c'est là la règle du jeu normal.
Alors juste par rapport au mot art, peut-être une petite chose intéressante, c'est qu'on peut lire une autre traduction de ce passage-là. On va peut-être donner la parole à Sylvain pour nous lire le même passage qui a été lu par Anne. Et dans la traduction des belles lettres, cette fois-ci, texte établi et traduit par Alfred Croiset, revu par Jean-François Prado.
Eh bien, maintenant, je vais essayer de te faire saisir ma pensée plus clairement, s'il est possible. Je dis donc qu'il y a deux choses différentes et deux techniques correspondantes. La technique qui se rapporte à l'âme, je l'appelle la politique. Pour celle qui se rapporte au corps, je ne puis de la même façon lui donner un nom unique. Mais dans cette culture du corps, qui forme un seul tout, je distingue deux parties. La gymnastique et la médecine. Dans la politique, je distingue la législation, qui correspond à la gymnastique, et la justice, qui correspond à la médecine. Dans chacun de ces groupes, en effet, les deux techniques se ressemblent par l'identité de leur objet. La médecine et la gymnastique pour le corps, la justice et la législation pour l'âme. Et d'autre part, elle se distingue en certains points.
Alors, ce qui est intéressant dans cette seconde traduction, c'est que là où avant on disait art, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ?
Technique.
Technique. Mmh. Et donc, finalement, on voit que c'est des choses radicalement différentes. Enfin, radicalement différentes, non. On pourrait entendre aujourd'hui technique presque de manière péjorative, hein, quand on dit technique de communication, justement, technique de vente, etc. Or, ce qu'il faut entendre derrière technique, c'est le mot « techné » grec. Et techné, c'est le savoir lui-même, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Et le rapport avec art, pourquoi d'un côté le même mot, techné, est traduit par art et par technique ?
Parce qu'en français traditionnel, le mot art est équivalent au mot technique.
Par exemple ?
L'école centrale des arts et manufactures.
Oui, ou des arts et métiers.
Ou des arts et métiers,
voilà,
oui.
Tout à fait. Donc il faut avoir cette astuce de lire le grec sous le texte français, parce que là on voit qu'on s'en sort pas. Si on traduit par art, il y a quelque chose qui va ne pas être clair, parce que pour nous l'art c'est les beaux-arts, c'est la peinture, la sculpture, la musique, tout ça. Or chez les Grecs c'est aussi l'art du cordonnier, l'art du gymnaste, l'art de l'artisan, celui qui va travailler le fer, le forgeron.
Et pour compléter, je dirais que justement chez Platon, je pense, et Socrate aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas de distinction entre ces deux arts-là. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, quelqu'un qui va faire son métier, entre guillemets, d'une manière la meilleure possible,
oui,
il atteint l'art. L'art dans le sens du bien et de la beauté, puisque en fait tout ça, chez les Grecs, est lié, hein, c'est la même chose. Donc c'est pour ça aussi que, au final, l'art, que ce soit esthétique ou cet art technique, je pense que c'est la même idée derrière. Hein,
Alors tu dis c'est la même idée, parce que justement ça nous fait aller vraiment dans le sens dans lequel Platon veut peut-être orienter notre regard. C'est celui de dire: qu'est-ce qui se montre quand je fais bien mon métier, finalement ? Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, là, chez Platon, c'est pourquoi un bon orateur, finalement, un bon rhéteur, ne serait-il pas aussi quelqu'un qui a une certaine forme de science, de logos, d'épistémé ? Et donc, pourquoi est-ce qu'on lui reprocherait d'avoir lui aussi une connaissance noble. Anne, est-ce que tu souhaites éclairer ce point ?
Je crois que Socrate le dit très bien. Il dit qu'en fait, les rhéteurs n'ont pas la connaissance de ce sur quoi ils parlent. Donc c'est bien ce qu'il leur reproche de fondamental.
Donc en fait, ils parlent sans rien connaître, quoi.
C'est ça, sur le sujet dont ils parlent. Ils ont une connaissance sur, effectivement, le discours, l'art du discours, probablement. Mais pas sur ce dont ils parlent.
Très bien. Eh bien, nous allons nous quitter sur cette... sur cette dernière remarque qu'on se chargera d'éclaircir dans la suite. À l'heure du triomphe du marketing et de la manipulation, on ne peut pas dire que les leçons de Platon aient été entendues, mais peut-être que nous allons les continuer à les méditer en espérant qu'elles fassent leur chemin aussi dans notre temps et dans notre société. Donc merci à toutes et à tous, et nous conseillons donc à nos auditeurs de lire le Gorgias, et nous nous retrouverons donc sur ce thème la semaine prochaine.